Kwai.
Bonjour.
Alex Wawanelewap.
Robert Blondin ici.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le chef de la communauté de Wahat Makmalotenam, Mike McKenzie. Kwai, chef McKenzie.
Bonjour à tous.
Merci. Je m'excuse pour mon inou d'être là avec nous. On est là aujourd'hui pour parler du projet Apuat, qui est un projet lien qui va, dont vous êtes partenaire.
Oui.
Oui.
Oui,
donc, j'aimerais ça.
Allez-y.
Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de la genèse? Comment vous êtes venu à avoir ce projet-là sur la table? On sait que vous êtes sur le territoire depuis des millénaires, que le développement colonial n'a pas été très généreux avec les Innus en général. Quand c'était le développement de Outard ou les projets de la Manique ou tous les grands projets hydroélectriques qu'il y a eu sur la côte nord. Aujourd'hui, comment ce projet-là de ressources naturelles a pu faire en sorte que vous êtes partenaire avec des compagnies d'électricité?
Ben, ça a débuté, je pense. Là, c'est quand même depuis quand même 2015, là, il y a eu... pour faire un peu une introduction, là, le dossier des projets énergétiques qui a été soumis par Hydro-Québec, il restait un 200 MW. Fait que la plupart des communautés, nous, on avait quand même, nous, pour Wahat 21, au tout début, on avait un projet de 25 MW. Fait que on a eu des discussions avec la Nation Innu dans l'ensemble de la Nation Innu. On est quand même 9 communautés. On s'est dit, mais pourquoi pas travailler ensemble pour obtenir le 200 MW que plutôt d'avoir 25 MW par communauté. Fait qu'on s'est assis, fait qu'on s'est mis en accord de travailler en étroite collaboration avec toutes les communautés, puis d'aller chercher le 200 MW. Fait que, mais pour nous aussi, pour la Nation Innu, je pense que c'est une première qu'on a un projet, qu'on a de l'actionnariat. Là, on appelle un partenariat réel. Souvent, au niveau des Premières Nations, on parle beaucoup de partenariat réel, mais celle-là, t'es maître dedans, t'es actionnaire du projet avec Boralex. Fait que nous, on est très contents là, au niveau de la Nation Innu d'avoir de vendre, en fin de compte, le produit auprès des droits Québec.
Oui. Donc, ce projet-là existe dans les cartons depuis 2015. On a eu peur un peu, par exemple, à l'élection du gouvernement Kakis. Si je me rappelle bien, il avait décidé de ne pas poursuivre le projet.
Oui, tout à fait. Je pense que à l'époque, oui, dans les débuts de. Pendant la période électorale, je pense que les caquistes n'étaient pas trop en faveur de développer le projet éolien. Mais c'est quand même changé avec. Il y a eu plusieurs facteurs là, au niveau. Il y a eu des baisses de prix là, par rapport au niveau de l'éolien, tu sais, la source d'énergie qui était de plus en plus compétitive. Une énergie renouvelable. On voit aussi au niveau du Québec, ils visent plutôt l'électrification, fait qu'ils ont besoin quand même d'énergie. Fait que il y a aussi l'aspect qui a été considéré, il y a eu la baisse des taux d'intérêt sur le marché aussi, évidemment.
Ah, ça fait en sorte que votre projet devenait viable. Quand vous dites que vous êtes maître d'œuvre du projet Apuat, c'est que vous allez diriger le projet, vous allez le gérer sur le territoire. Comment vous allez être maître d'œuvre de ce projet?
Exactement, ça va être nous qui va être le donneur d'ouvrage dans tout l'aspect du projet de A à Z. Fait qu'on va quand même créer dans la société Apuat, ben il va y avoir un genre de comité aussi de retombées économiques qu'on va créer pour maximiser aussi les retombées économiques au niveau de la Côte-Nord. Fait que ça va être une chose qu'on va développer avec l'expertise qu'on a là avec Boralex. Fait que tout le long, là, dans la phase de construction, on prévoit d'ici l'an prochain d'avoir près de 300 emplois au niveau de la construction. Fait que ça va être
c'est quand même important.
Ça va être quand même un gros chantier qui va être effectué sur la Côte-Nord. Fait que moi, je pense que autant les Premières Nations vont travailler, puis aussi au niveau des Allochtones, aussi au niveau de la Côte-Nord. Mm-hmm. Fait que des contrats d'approvisionnement, ce qu'on voit là dans les échéanciers qu'on a, mais les contrats d'approvisionnement vont commencer à être octroyés vers 2022.
Donc, on parle qu'il va y avoir beaucoup d'Innus, beaucoup d'Autochtones, beaucoup de membres des Premières Nations qui vont être employés. Est-ce qu'on a une idée à peu près des objectifs? On parle de 50% des 300 travailleurs de la construction qui vont être autochtones, qui vont être membres des Premières Nations. On parle de 25%. Est-ce que vous avez une idée de l'objectif que vous voulez atteindre?
Pas vraiment encore, là. On est en train de s'installer, de mettre en œuvre le comité des retombées économiques.
OK, tout ça avec
Ils vont avoir un échéancier, un plan de travail aussi qui va être soumise à chaque actionnaire de la société. Fait qu'autrement dit, les actionnaires, c'est les 9 communautés nous. Fait que par la suite, là, on verra par la suite la façon qu'on va procéder, là, au niveau des travaux qui vont être effectués sur le chantier.
Et pour la division des profits, est-ce que c'est déjà déterminé? Ça va être quoi la quote-part des communautés Innu relativement avec Boralex?
C'est 50% de la nation Innu puis 50% avec Boralex. On est 50-50 là,
quand même, hein?
Dans l'actionnariat.
Quand vous parliez d'un vrai partenariat, on voit quand même que ici à 50-50, d'habitude, j'ai eu l'occasion de siéger dans des comités de négociation. On nous parlait de 1, 2%, 5, 6
ouais.
emplois pour du développement des ressources naturelles. C'était tout le temps un peu insultant de se dire qu'on vient chercher les ressources de nos territoires, puis on nous donne après encore des grenailles, même au terme d'emploi. Là, 50%, c'est quand même vraiment intéressant.
C'est
ça va faire en sorte que les communautés nous.
Allez-y.
Oui, excusez. Ah non, allez-y, allez-y. Vous êtes l'invité.
Oui, mais j'essaie de vous suivre dans votre question.
Ah, oh, oui, OK, non, excusez. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une idée de combien ça peut valoir en termes de monnaie, d'argent sonnant et trébuchant pour votre communauté, admettons?
Au niveau de... Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de l'ensemble
De combien de reporter... Oui, de l'ensemble du projet. Mettons, pour Wahat Makmalotenam, combien de retombées annuellement vous espérez recevoir?
Mais c'est sûr, là, c'est pas vraiment là, calculé de la façon okay. qu'on les retombées vont recevoir. C'est sûr qu'on est à 50%, fait que dans 50% des retombées, mais on va le diviser en 9. Mais il y a quand même un aspect dans l'entente, vu que c'est le territoire traditionnel de Ouachat-Maïdenam, on a quand même un 500 000 de façon annuelle parce qu'on est quand même la terre d'accueil au même titre que la municipalité de Pointe-Cartier. Fait que 500 000 sur 30 ans, là, ça va directement rentrer à la communauté Ouachat-Maïdenam, plus le 50% qu'on a d'actionnariat. Fait que c'est un projet quand même qui équivaut près de 600-700 millions de dollars, là, le projet éolien de 200 mégawatts.
La construction d'éoliennes, ça va aussi changer une partie du territoire que vous occupez. Ça peut, au niveau de l'écologie, est-ce que ça va avoir un impact important?
Non, je ne crois pas. Déjà, juste dans les installations du parc éolien qu'on va ériger, là, je pense qu'il y a déjà une bonne partie, là, qu'il y a comme un chemin forestier qui existe déjà. Fait que, il y a toujours de la technologie, hein, le nombre d'éoliens que tu peux installé, il y a eu des grands, des moyens. La technologie a toujours évolué, fait que je pense qu'il va y avoir moins d'éoliens là, par rapport aux 200 mégawatts, fait que c'est quand même une énergie renouvelable, qui est une énergie verte aussi. Là, ça colle un peu la culture Innu.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez nommé ce projet-là Apuat?
Apuat, c'est comme un environ.
Si je le prononce bien.
En Innu, okay. c'est un environ, c'est comme un aviron, là. Puis, c'est pour ça,
ça ressemble à une pale d'éolienne.
Oui, ça ressemble à une pale d'éolien. Fait que c'est très significatif là, à un projet d'éolien.
Comme la rame, c'est un des symboles pour avancer.
Je trouve ça intéressant aussi.
On est dans
avironner le vent comme ça, c'est magnifique.
Tout à fait. C'est similaire. C'est la même chose. C'est comme une rame. Tu sais, dans ce projet-là, on rame ensemble avec... la nation Innu, tu sais, c'est les 9 communautés qui sont partenaires dans un projet. Puis je pense pas que ça va être le dernier projet avec l'ensemble des communautés. Tu sais, je pense que c'est important là, dans les prochaines années, d'autres projets peut-être, de s'entraider puis d'avoir aussi des investissements qu'on peut faire aussi comme Première Nation. Tu sais, on parle souvent des ententes là, des ententes répercussions avantages. C'est toujours des redevances fixes qu'on a depuis des années dans des ententes un peu partout qui ont été signées au Québec. Fait que avec l'éolien, au même titre que l'Estigouche, mais t'es actionnaire. Fait que le parc éolien va appartenir à la génération future dans 30 ans. Mais tout le parc éolien va être fini de terminer d'être payé. Fait que la prochaine génération vont peut-être seulement renouveler, changer un peu peut-être les éoliens, puis ils vont peut-être renégocier un autre 30 ans auprès d'Hydro-Québec. Fait que je pense que ça va tellement rapporter, quand on regarde, c'est un projet de génération en génération, moi, je pense, dans le futur.
C'est quoi les principales difficultés que vous avez dû vaincre pour arriver à l'aboutissement du projet comme ça?
Ben, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'interventions politiques depuis 2015. Hein. Ça a été vraiment quelque chose qu'on s'est battu, qu'on n'a pas lâché le morceau. Je regarde la plupart des chefs, ils n'ont jamais baissé les bras dans ce projet-là. Fait que on a tenu notre bout. On a fait des interventions, que ce soit avec les libéraux, les caquistes. Je pense que ça a été vraiment... Autant les libéraux ont travaillé dans le dossier que même au même titre que les caquistes. Fait que je pense que ça a été quand même là, un dossier qui a perduré, mais qu'on a quand même tenu le dossier. Fait que aujourd'hui, on est très, extrêmement contents de l'avoir. Fait que je pense ça commence à avoir une relation qu'on parle beaucoup d'un partenariat réel. Mais je pense que c'est une relation qui va peut-être débuter là, avec cette annonce-là là, de l'éolien qu'on a vu très récemment.
Quelle sorte de trou on a fait dans le canot pour que le canot avance pas trop vite dans le projet? Là?
Le canot?
Le canot du projet, tu sais, on l'a fait couler des petits bouts, là.
Ben, c'est toujours de même, hein. C'est en politique, Alexis, il l'a vécu, je pense. Il a travaillé au niveau du gouvernement du Québec, là. Faut toujours se battre, faut toujours argumenter.
Dans ma jeunesse.
Faut toujours faire du PR auprès des collègues, de l'opposition. C'est la même chose au niveau des gouvernements innos, là. Mais moi, je me dis toujours en politique, là, ce qu'on fait pas souvent, que ce soit les gouvernements innos puis le gouvernement provincial, fédéral, on ne donne pas assez de temps de discuter. Fait que c'est toujours des agendas très serrés. On a peut-être des fois un heure de temps avec un ministre ou le premier ministre. Fait que moi, je me dis, il faut qu'ils prennent le temps de bien comprendre que les Premières Nations, ils ont des droits sur le territoire traditionnel. On a le droit d'avoir des retombées économiques en matière de ressources naturelles. Il faut aussi avoir de la protection aussi sur le territoire. On a quand même des plans d'aménagement territorial à travailler avec les Premières Nations. C'est pas rien que du développement. Il faut penser les générations futures. C'est de cette façon-là qu'on va développer des projets durables, que ce soit avec les Premières Nations et les Québécois.
Est-ce que parmi les difficultés que vous avez rencontrées, l'électoralisme était pour quelque chose? Souvent, les politiciens sont d'accord si c'est sûr de rapporter des votes, puis quand c'est pas sûr, ils sont moins d'accord avec le projet, non?
Ben, c'est sûr, ça. C'est sûr que l'électorat penche parfois là au niveau d'un gain à l'élection. Mais quand tu regardes dans l'ensemble du Québec, ou même, je dirais... En Ontario, ils sont très avancés comme province là, en matière de partage des ressources naturelles au partage des redevances. Je pense qu'on est rendu à 40% avec les Premières Nations. Fait que les Premières Nations là, sont très avancées en matière de relations qu'ils ont avec les Premières Nations. L'Ontario, avec les Premières Nations, vous pouvez regarder, là, c'est rendu à 40%. Au Québec, on n'est même pas encore rendu à... Alexis disait peut-être un 2% des ressources naturelles. Fait que pour nous, là, c'est important de changer aussi la relation de nation à nation qu'on a avec le Québec. C'est pas toujours de passer la paix des braves. C'est toujours moi je pense qu'on devrait avoir des ententes évolutives là, en rapport avec des nouvelles relations. Regardons ailleurs ce qui se passe dans l'Ouest, dans l'Est. Des discussions qui ont des provinces avec les provinces.
De sortir de la logique de cession du territoire, cession oui. des droits ancestraux. Parce que c'est tout le temps ça que veulent les gouvernements coloniaux, faire en sorte qu'on cède notre territoire puis qu'on remplace ça peut-être par une nouvelle entente.
Exactement. Fait qu'il y a aussi l'aspect, tu sais, parfois le monde, tu sais, quand tu regardes dans l'ensemble du Québec, on parle beaucoup des Premières Nations, c'est toujours, on est étiqueté par rapport à des subventions. Mais pour nous, comme gouvernement et nous, au niveau des ressources naturelles, sont situées sur le territoire traditionnel. On a des droits et le titre qu'on a quand même là sur le territoire. Ben, on a autant aussi on veut quand même développer avec d'avoir aussi la responsabilité aussi d'avoir au niveau avoir des fonds là au même titre que le gouvernement. Fait que qu'on vive pas de subventions. Là. C'est, tu vois, avec le, juste le projet là d'éolien, on est actionnaire. C'est ce qu'on veut sur le territoire ben oui. aussi. C'est de l'actionnariat et non des redevances fixes. Là, je pense qu'on, comme je disais, il faut évoluer, il faut discuter plus longuement, puis de changer aussi la façon de discuter avec les Premières Nations au Québec.
Ben, Chef McKenzie, on va prendre une petite pause musicale. J'aimerais qu'on discute après ça du climat social que, dans lequel ce projet-là a été accepté au Québec et de peut-être les autres projets de développement des ressources naturelles ou de partenariat que vous pourriez avoir après notre pause musicale.
OK, parfait.
Le bétain tu vois, n'a ce pour me noir de main. When I was this a teacher one Na sports and mount want you to the man Tandina na na twa sim na Na tsendin ne man ni kam ya mi tiam Mo kawin to che kwa ne to the man Twa sim bo man wa the man Epet man, te kwane tout man Te pawe, as te skushintis Wi man negash, ke tin in you in Met sendene man, anem bat inosi Mok te kwi shuchin ke tin Wi mwet te kwi shuchin doasi
C'était Nita Uassim de l'artiste Mathieu de Wahat Makmalotenam. On est encore avec le chef McKenzie. Chef McKenzie, je vais vous dire sincèrement, quand j'ai vu l'annonce le 2 février que le gouvernement Legault appuyait puis allait accepter le projet APUAP, je me suis dit, c'est quand même une drôle de coïncidence. C'est après la mort de notre sœur Joyce Echaquan. C'est dans un contexte social où le gouvernement du Québec ne veut pas reconnaître le racisme systémique. mais veut essayer d'avancer avec les Premières Nations sans reconnaître ce fait-là majeur. Est-ce que vous pensez que ce contexte-là a eu de l'influence dans l'acceptation de votre projet?
Non, je crois pas. Il ne faut pas quand même m'aider les incidents qu'il y a eu avec Mme Échaquan à Joliette, puis des projets quand même qui cheminent depuis, comme je disais, en début de d'entrevue. C'est depuis quand même 2015 que le dossier chemine. Fait que, je pense que on était rendu à le closer, évidemment, le dossier. Puis je pense pas qu'il y ait aucunement là, dans le dossier que vous parlez. Non?
Pushing politique. Ouais, OK. Bon, ben tant mieux, parce que je me disais, je trouvais que c'était une drôle de coïncidence. Je suis super content de voir ce projet-là aller de l'avant, mais je trouvais ça triste qu'encore une fois, il fallait peut-être un drame pour. Mais, je suis bien heureux d'entendre ça. À l'avenir, donc, vous parliez de d'autres partenariats. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Hydro-Québec, avec d'autres communautés pour faire valoir votre souveraineté sur le territoire?
Mais peut-être, je ne sais pas, là, mais peut-être qu'on regarde aussi un autre projet énergétique qui peut peut-être sortir là, auprès d'Hydro-Québec. Là, okay. Je pense qu'il va avoir... un plan énergétique qui sort tous les 5 ans. Fait qu'on attend de voir ce qui va sortir là, pour peut-être aussi travailler encore avec l'ensemble de la Nation Inno. C'est sûr, ça va être des discussions qu'on devrait aborder avec les chefs. Puis ça va être quelque chose à envisager, peut-être à regarder avec les chefs.
En ce moment, je sais qu'il y a des négociations territoriales, il y a eu l'approche commune. Encore là, c'est quelque chose de très long, très pénible. Il y avait un conseil tribal, deux. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme ça, où il y a 9 communautés Innu qui sont ensemble, fait en sorte que ça va aider l'unité Innu?
Bien, c'est sûr. Actuellement, avec la table de négociation, il y a 3 communautés Innu qui sont assises. Hein. Fait que les 6 autres... sont pas assis avec au niveau de la négociation territoriale globale, mais pour moi, pour Ouachat maintenant, on est très loin là de. Je regarde la politique de revendication territoriale globale du fédéral, il date de 1973. Fait qu'on attendait avec le gouvernement Trudeau qui allait changer peut-être la façon de faire des discussions auprès des Premières Nations. Fait que ça n'a pas tellement évolué. Au début, il y a eu des discussions. Mme Bennett a fait une tournée au niveau de l'ensemble du Canada. Fait que ça n'a pas vraiment avancé. Fait que pour nous, à Ouachat maintenant, on n'est pas dans cette lignée-là de négociation territoriale globale. Fait que, mais les autres, on reste avec les 3 autres communautés. Les 3
autres communautés. Le cadre actuel, dans le fond. Mais le cadre actuel est trop archaïque.
Oui, puis je pense qu'il y a encore du chemin à faire là, au niveau de la façon de discuter avec les Premières Nations, avec surtout avec le fédéral. Là, on parlait de la province aussi. Il y a du chemin à faire, il y a des discussions à faire, être un peu plus à l'écoute entre les Premières Nations puis les Québécois. Tu vois que on parle beaucoup de services, on a eu beaucoup de rapports là, qui étaient effectués au cours des 5-10 dernières années, mais de l'implanter, c'est pas évident. Souvent, tu sais, on parle beaucoup de la sécurisation culturelle, mais avant de l'implanter, il faut qu'on amène quasiment de l'éducation populaire de chaque département là, de services qu'on a au Québec. Fait que les Premières Nations aussi moi, ce que je vois pas souvent, là, qu'on devrait peut-être se pencher au cours des prochaines années, c'est donner de l'histoire aux Québécois face à nos Premières Nations. Ça, là, je pense que...
Ah oui, c'est bon, ça.
Il y a une méconnaissance de la culture puis de l'importance des droits des Premières Nations. Ça, je pense que ça serait devrait être la chose la plus importante, là, à mieux reconnaître. Ben, oui. Moi, je regarde, je suis allé à Vancouver, là. Un exemple que je peux te donner, là, juste... Quand tu rentres à Vancouver, qu'est-ce que tu vois à l'aéroport? Tu vois des totems. C'est-à-dire qu'il y a un respect déjà de la place qu'il y a des Premières Nations à Vancouver. Fait que au Québec, on a encore du chemin à faire là, au niveau des Premières Nations. Fait que moi, je me dis, là, il faudrait travailler en étroite collaboration entre le gouvernement Inuit et le gouvernement québécois.
Hey, je vous lance une idée comme ça, chef McKenzie, à laquelle je réfléchis justement pour faire de l'éducation. Peut-être vous allez me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Moi, je me dis qu'on devrait faire comme dans des territoires comme en Bretagne, comme dans les Pays de Galles, comme en Irlande, où on a une signalisation qui peut être bilingue, des fois trilingue. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les lieux des noms qui seraient comme en québécois, mais aussi en français, mais qui pourraient aussi être en Innu, en Abénaki, en Anishinaabe, en Eyu, pour éduquer la population que ce territoire-là est un territoire autochtone, puis qu'on est toujours là. Pensez-vous que ça serait, ça aurait une valeur éducative, une telle initiative?
Je pense que oui, je pense que oui. Moi, je pense que ce serait une très bonne idée là, d'avoir aussi les Noémons, mais la langue. Tu sais, on parle beaucoup au niveau de la loi sur les langues autochtones qui ont été reconnues. Je pense que ça, c'est une chose que peut-être qui devrait être mise en place. On parle aussi des changements au niveau des cours d'histoire qui sont donnés dans nos écoles, là, que ce soit des Premières Nations ou bien même. Au niveau québécois, là, on a encore l'histoire ancienne. Là, on parle de Jean Cartier. Là, on parle très peu
Ben oui.
de l'histoire des Premières Nations. Fait que ça aussi, là, on devra le changer parce qu'on grandit avec ça. T'sais. Nos enfants grandissent avec cette histoire-là, une histoire qui est très minime envers les Premières Nations. Fait que ça aussi, je pense qu'on devra se pencher, là, tant aussi de donner l'importance, aussi une place importante des Premières Nations. Dans l'histoire, je pense qu'on la réconciliation là, elle va commencer aussi à avancer un peu plus vite, tu sais, par rapport à aujourd'hui. Il y a beaucoup de méconnaissances, puis c'est toujours.
Un chef McKenzie, je voudrais juste intervenir ici pour vous dire une chose.
Oui.
Vous mentionniez Vancouver où on voit les totems, tout l'art
Oui.
des Aïdas qui sont là. C'est venu de l'université et de la Faculté des arts. Qui ont été les premiers à exiger du gouvernement cette présence des Autochtones. Donc, c'est venu du milieu universitaire. On s'y attend pas toujours.
Ben non, puis en même temps, je pense que c'est à Vancouver, je pense que c'est l'un des villes qui a adopté aussi la motion de la déclaration des peuples autochtones. Tu sais,
Puis
au fédéral,
le gouvernement de la Colombie-Britannique aussi.
Oui, mais pourquoi pas au Québec aussi? Il devrait peut-être. La dernière motion qu'il y a eu, c'est avec le Parti québécois, je pense, avec René Lévesque, la dernière motion pour reconnaître un peu les Premières Nations, mais je pense que la déclaration des.
En 1985.
Oui,
c'est ben, chef McKenzie, chef McKenzie, bon vent, c'est le cas de le dire.
Oui.
Je m'excuse encore pour mon Innu. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment apprécié. C'est la fin de notre première demi-heure. Au revoir et merci.
Vous écoutez Coué Bonjour avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
so broken, been so low that I kiss the ground. But you can see yourself a winner beyond the money and the greed. Beyond the prize is a pure untested need. And to be a champion is more than luck and speed. It's power and freedom in the spirit of the wind.
C'était « You Got to Run » de « Spirit of the Wind » de l'honorable artiste Buffy Sainte-Marie avec la sublime Tania Kagak.
Avec nous en deuxième partie, André Michel. André Michel est artiste, peintre, sculpteur, ethnographe aussi, je crois. Vous êtes là, André?
Oui, je vous écoute.
Comment allez-vous?
Très bien, il fait beau.
Ah, il fait très beau. Écoute, l'exposition que vous faites, là, le festin au musée amérindien de Saint-Hilaire, c'est là jusqu'au 2 mai. De quoi il s'agit?
C'est sur la cuisine amérindienne. En fait, ça résulte d'une série de dessins que j'ai fait au début des années 70, quand je partageais ma vie avec les Innus sur la Côte-Nord, parce que j'ai habité à cette île 18 ans, donc 15 ans à vivre dans le bois avec eux, plusieurs mois par année. Eux chassaient, pêchaient, moi je dessinais.
À votre accent, là, je ne reconnais pas du tout l'accent de la Côte-Nord.
Ben non, je viens du sud de la Gaspésie, mais bien au sud.
Ah, d'accord. Mais vous êtes européen d'origine, c'est ça?
Exact. Je suis né dans le sud de la France, à Avignon.
Ah, d'accord.
Sur le pont d'Avignon.
Ben, qu'est-ce qui vous a pris à Avignon de venir jouer l'autochtone au Québec?
Je ne joue pas à l'autochtone. Grand Dieu, j'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais comme certains ont pu le faire. Pas du tout. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait des Amérindiens au Canada. Je vivais en France. Là, vous êtes en train de me faire raconter rapidement ma vie.
Ben oui, c'est ça qu'on veut, c'est intéressant.
Ben simplement, à l'âge de 18 ans, j'ai eu un petit garçon que je suis resté avec la maman que 6 mois, que j'ai élevé quasiment tout seul. Et j'ai été prof de dessin. J'ai enseigné pendant 4 ans et j'avais des gros projets. Mon père aimait beaucoup l'opéra, donc toutes les fins de semaine, il me traînait à l'opéra d'Avignon. Et un jour, j'ai décidé de monter un projet pour repeindre le plafond de l'opéra. Alors j'avais 20 ans, vous doutez bien qu'on m'envoyait promener en me disant « tu es trop jeune, attends d'avoir une quarantaine d'années ». Après, j'ai voulu faire une immense murale, comme on en voit maintenant dans toutes les villes du monde, mais en 1965-66, personne ne faisait ça. Et là aussi, on m'a reproché d'être trop jeune. Alors, fatigué de l'idiotie des Français, j'ai pris mon petit garçon, mon sac à dos, et je suis traversé toute l'Europe, pour traverser toute l'Afrique, pour aller m'installer à l'île Maurice et l'île de la Réunion. Et là-bas, j'ai rencontré la femme de Jean-Pierre Masson, celui qui faisait Séraphin dans les Pays d'Amour.
Ah, mais je m'en souviens très bien.
Voilà, qui tenait un resto, une galerie à côté de l'ancien Radio-Canada sur l'ancien boulevard.
Il s'appelait le Café des artistes.
Eh bien, ça fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un qui a connu ça.
C'est parce que vous parlez à un vieux, monsieur.
Ben là, je ne vous vois pas. Donc, je suis venu exposer et là, une semaine après, la crise d'octobre a commencé, c'était en 70. Donc, avec mon petit garçon, j'ai décidé de louer une auto. On a visité tout le Canada, jusqu'à Vancouver, puis Halifax. Et en revenant, eh bien, arrivé à Québec, j'ai vu Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai pris la route et j'ai continué jusqu'à cette île. Là, des gens m'ont proposé de m'héberger pendant un mois, puisque j'étais au Québec pour 3 mois. Et en allant dessiner dans le bois, j'ai croisé 3 Innus. Dont un, Jean-Marie Mackenzie, qui est devenu un petit peu mon père spirituel. Il aurait pu être mon père, d'ailleurs. Et c'est le grand-père du chef actuel de Washat Malio, Mike McKenzie. C'est son grand-père.
Et là, vous avez vécu avec eux à leur façon, vraiment?
Ah oui, complètement. Ben, la première fois, ça s'est passé de façon drôle. C'est que j'étais en train de dessiner dans le bois, à une demi-journée de marche de cette île, et puis il venait de pleuvoir, j'étais assis sur une bûche, il y avait un arc-en-ciel, et trois inous arrivent du bois, ils s'approchent de moi, et le plus courageux, qui était Jean-Marie, le père de Mac, il regarde ce que je fais, puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ben, dans un mauvais français, donc je lui réponds « Je suis en train de dessiner, tu vois bien ?» Il me dit, Kiss, pourquoi tu prends pas un appareil photo, ça irait bien plus vite. Ça a été mon premier contact avec un autochtone, avec un Inou. Et quelques temps après, une semaine après, il a envoyé son petit garçon, donc qui maintenant est énorme par rapport à moi, là, qui a grandi tout ça, qui est le frère de Suzanne, le père de Mike. Il a envoyé son fils me chercher, à l'époque ce gamin avait 9-10 ans, pour que je l'accompagne pendant une semaine dans le bois. Et puis, vous savez, mes amis autochtones, je ne sais pas si Alexis est là, mais ils ont des montres, mais moi je dis souvent qu'il n'y a pas d'aiguille. Vous savez qu'on sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on revient. Donc on était parti pour une semaine. Moi j'avais amené des boîtes de conserve parce que je ne voulais pas vivre au crochet de mes nouveaux amis. Et on est parti pour une semaine. Mais au bout d'une semaine, ben, ça a duré 3 semaines. Donc après avoir mangé mes boîtes de conserve, ben, malheureusement j'avais plus rien mangé. Donc quand je voyais que quelqu'un était en train de manger, parce que quand on est dans le bois sur le poêle qui est au milieu du tipi là, ou de la tente, il y a toujours quelque chose qui cuit, il y a toujours du thé qui bout, donc on peut boire du thé, on peut manger presque tout le temps. Et quand quelqu'un se servait à manger, je sortais de la tente pour pas manger leur plat, pas parce que c'était pas bon, mais c'est parce que ça leur appartenait. Et puis au bout de 3 jours, Jean-Marie a tué un caribou, et donc voilà, il m'a appelé pour que je l'aide à dépecer. C'est là où j'ai testé la panse de caribou suri mélangée avec du sang, et que lui a appelé la confiture, et qui m'a servi sur de la vanille. Alors voilà, enfin bref, c'est ça.
C'est une dure initiation, mais cette initiation vous a amené à vivre quand même plusieurs années à cette île avec ces gens-là.
Exactement. Ben, en général, on partait en septembre, on revenait en décembre au moment des fêtes, on repartait en janvier et on revenait quand ils avaient tué assez d'outardes.
Est-ce qu'il vous est arrivé parfois des anecdotes où vous avez été en danger avec eux, soit en faisant le canot, soit dans la forêt?
Je suis tombé déjà dans l'eau glacée, et puis je suis tombé 2 fois dans la rivière en canot, mais ça fait partie de la vie normale. Je veux dire, vous savez, j'ai perdu beaucoup de l'Inou, mais je connaissais l'essentiel de l'Inou parce que je trouvais que c'était une question de survie. En même temps, s'il m'arrivait quelque chose, je suis pas doué du tout pour les langues. Je parle anglais comme une vache espagnole, comme on dit chez moi. Mais je retenais l'essentiel pour s'il m'arrivait quelque chose et aussi pour comprendre, parce qu'au départ, les gens que Jean-Marie ou que Bruno Jourdain ou que le père de Lucien Jourdain me faisaient rencontrer, c'était des gens de Schaefferville, dans des Inuits de Schaefferville, qui, eux, souvent ne parlaient pas un mot de français. Donc il fallait que je comprenne les choses essentielles.
Qu'est-ce qui fait qu'ils vous ont si facilement, si agréablement adopté?
Je pense parce que, vous savez, quand je suis arrivé au Québec, je suis resté 18 ans sans fréquenter des Français. Pourquoi? Parce que je trouvais les Français... D'abord, j'avais quitté la France, c'était pas pour rester ici et fréquenter des Français, mais c'est surtout parce qu'ils comparaient toujours. Oh, chez nous, oh, ils comparaient, c'est mieux ci, c'est mieux ça. Et je crois que le fait de vivre dans le bois avec les autochtones, et que j'ai jamais dit... c'est mieux si vous faisiez ci ou si vous faisiez ça. Je me suis plié à leur manière de vivre. Vous savez, quand on part des plusieurs familles sous un tipi qui est fait pour 5-6 personnes, on pouvait coucher 10-12. Donc, à tour de rôle, la couche était toujours chaude. Il y a quelqu'un qui dormait, un autre qui était debout. Donc, il y a une promiscuité qui est née entre eux et moi. Et puis, moi, je me suis jamais plaint de quoi que ce soit. Alors oui, il y en avait qui pouvaient rôter, péter, il y en avait, quand c'était des jeunes couples, ben, ils faisaient l'amour, et puis ça faisait partie de la vie, du quotidien, un peu comme ça peut se passer dans une maison, et moi ça m'a jamais dérangé, puis j'ai jamais jugé ça.
Vous avez déjà remarqué l'importance du rire chez les Amérindiens, chez les Autochtones, vous pouvez nous développer ça un peu?
Plus particulièrement chez les Innus. Et ça c'était fascinant, parce qu'ils sont capables de rire de vous, mais ils sont capables de rire beaucoup d'eux. Et il y en a un qui était un spécialiste de ça, c'était Paul-Émile Fontaine. C'était un chef qui est décédé il y a 2 ans, Paul-Émile. D'ailleurs, ça a été le premier président de la maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire que j'ai fondée. Et lui, il parlait toujours avec des phrases très imagées. Je me rappelle que souvent, que ce soit lui ou d'autres, m'ont accompagné pour mes expositions à travers le monde. Et lors d'une conférence en France, à l'ouverture de mon exposition, Paul-Émile avait parlé du carcajou, que c'est l'animal le plus malfaisant, le plus intelligent, mais le plus malfaisant dans la forêt, qui était dangereux, tout ça. Et puis là, la conférence se fait, puis à la fin, il y a un journaliste qui pose la question et qui demande à Paul-Émile, Monsieur Fontaine, il reste combien de carcajou encore au Québec ? Et Paul-Émile, sans rire et sourire, répond 7-8 millions.
Alexis Wawanaloat, à l'appareil, quoi, M. Michel? On dit que le nom de Pessamit, je pense, ça veut dire le peuple rieur, si je me rappelle bien.
Oui, mais ils sont très rieurs.
Donc, c'est ça, ils sont très reconnus pour être rieurs. Donc, vous, après tant d'années comme ça, à recevoir des peuples autochtones, à apprendre, à comprendre leur culture et tout ça, la volonté de faire des musées amérindiens par la suite, c'était dans le but de redonner... comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'il fallait des musées amérindiens?
Ben, le premier musée que j'ai créé, c'est en 1975, c'est dans un ancien poste de traite de la baie d'Hudson, à cette île, sur le territoire de la communauté de Ouachat. À l'époque, je me rappelle bien, et les Blancs qui se rendaient sur le locataire de ce site-là, qui était une boîte à chansons, restaurant au départ, et qui avait été créé en 1976-68, devait payer un 5 000 $ pour les droits de passage des Blancs qui se rendaient sur le territoire de la communauté pour aller chez lui. Donc annuellement, il payait ça. Puis là, ça a fermé, il a fait faillite et c'est tombé en ruine. Il y avait 7 bâtiments. Et moi, en vivant dans le bois avec les Innus, je ramassais souvent des objets, des vieilles raquettes, des vieux manteaux en peau de caribou, des mocassins. Et je me disais, ben, ça me fera des souvenirs quand je retournerai en Europe ou dans mes îles. Mmh. Et à un moment donné, j'avais beaucoup d'objets. Et j'ai décidé de les donner à un musée. Donc j'avais pensé au musée du Québec à l'époque, comme il s'appelait, à Québec. Et puis m'est revenu des phrases de mes amis Innus qui me disaient souvent, parce qu'ils me voyaient dessiner, là, et puis moi, des fois, je donnais de mes dessins parce qu'ils me les demandaient en souvenir, même s'il y en a beaucoup qui sont tombés à l'eau. Ils me disaient, ouais, les archéologues, les ethnologues, les anthropologues, là, tous les hogs, ils viennent nous photographier, nous filmer, ils écrivent leur thèse de doctorat, de maîtrise sur nous, et jamais ils nous en redonnent une copie. Donc, chez moi, ça détruit.
Donc, c'est là que vous avez décidé de faire votre musée.
Exactement. C'est là que je me suis dit, oh, non, André ne sort pas les objets. Et je suis allé voir la municipalité de cette île parce que l'intérieur des palissades du vieux poste appartenait à la ville de cette île. Et je leur ai demandé, avec mon argent, de me prêter une bâtisse, la plus grande, celle qui était le magasin à l'époque d'Abbé d'Hudson, et que j'allais la restaurer à mes frais avec la vente de mes tableaux. Et c'est ce que j'ai fait, mais là j'ai engagé des Innus, Et l'été, des artisans Innus qui venaient des quatre coins de la Côte-Nord venaient faire de l'artisanat, vendaient leurs produits. Et puis après, ben, on a récupéré la chapelle, après on a récupéré l'ancien restaurant et puis les différentes bastisses. Et c'est devenu un endroit très attractif. Mais à l'époque, la ville de cette île et les citoyens me prenaient pour un fou. Ils disaient, ça tiendra pas six mois, ça va faire...
Il y avait un certain racisme quand même. Il y a toujours un certain racisme à cette île.
Oui. J'ai beaucoup vécu.
Oui.
Donc, quand j'entends...
Vous l'avez vécu?
Ben oui, avec eux. Parce que quand des fois, on revenait du cinéma, du bois et je les amenais au cinéma pour les remercier, ben, les gens se déplaçaient. Souvent, ils changeaient de place parce que supposément, on sentait fort. Alors qu'en fait, on sentait le boucané. Parce que quand on vit sous le tipi, ben, y a de la fumée. C'est certain que la fumée s'imprègne dans nos cheveux, dans nos vêtements, en laine.
Donc, règle générale, André et Michel, vous avez été bien accepté par les Innus, mais est-ce que vous avez été contesté parfois?
À ma connaissance, non. Possiblement que de partout, il y a des gens qui doivent m'aimer, d'autres m'aimer un peu moins. Mais à moi, personnellement, non, non, non. D'ailleurs, je pense que si j'avais été contesté, quand c'est eux qui m'ont quand même invité, plusieurs années après que j'ai quitté cette île, pour suite au décès de Jean-Marie Mackenzie, d'ailleurs, sur lequel un livre a été fait sur notre amitié entre lui et moi, écrit par Michel Noël, qui est un métis. Mmh. Et quelques années après, le chef Élie-Jacques Jourdain m'a fait revenir pour trouver l'argent et construire le Chapoutouane, le musée du peuple Innu à Ouachat.
Alors, pour voir vos peintures, elles sont exposées, celles qui sont autour de la nourriture. Ça s'appelle le festin, c'est au musée amérindien.
Le Macouchal.
Oui.
Jusqu'au 2 mai. Merci, André et Michel.
Ben, merci à vous. Je vous souhaite un beau printemps.
À vous aussi.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Ti quan ci vedo da man, ci ci pende, ma non è da man. Ti quan ande che nin, anno muoiano. Ti vado per ci mando, ci mi ne goian. Ci mi ne goian, che ci poco scem da man. Mo gogniam, mi cape tutto, e te na mo che ti vado. Not the man that he got to be cheated, but then, oh, give me a make up it to. And then I'm going to be water. But then, just push the man.
C'était Miam Eka Petu de Mishta Shipu McKenzie, autrement connu sous le nom de Sylvestre McKenzie, qui est le fils de celui qu'on surnomme parfois le père de la musique Innu, qu'on entend aujourd'hui, Philippe McKenzie.
Alexis, j'ai deux ou trois questions à te poser. Il y a des choses. Tu vas m'aider à comprendre des choses.
Oui.
Okay? On vient d'entendre un Français installé longtemps sur la côte nord, à cette île, etc. Chez les Autochtones, ils ont eu fréquemment la visite d'ethnologues, d'anthropologues, d'artistes, etc. C'est quoi la réaction habituelle? Là, il semble que la réaction était bonne, tant mieux, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Bien, le problème, souvent, avec des anthropologues, des ethnologues, des archéologues, c'est comment on va rendre après ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce travail-là? Parce que pour beaucoup, être juste un sujet d'étude, sans nécessairement avoir l'interaction, sans nécessairement avoir son mot à dire dans tout ça, ça devient assez fatigant. Puis on le voit beaucoup encore dans beaucoup de communautés. On voit comme ça des gens arriver, puis ils veulent arriver souvent avec le syndrome du sauveur blanc. Donc, il est important, je pense, de comprendre ça. Puis la différence qu'il peut y avoir entre justement un bon accueil puis un moins bon accueil, quelqu'un comme Serge Bouchard, même si je suis un petit peu moins en accord avec ses positions dernièrement, il reste qu'il a rendu beaucoup de services à la nation Innu puis au peuple autochtone en général en rencontrant de façon correcte, de façon exacte ou en tout cas de façon d'où on pouvait se sentir représenté. Donc, c'est pour ça que je peux voir quelqu'un comme le chef Pietachio des Kwanishit dire, même si Serge Bouchard vient dire que le racisme systémique n'existe pas au Québec, défendre son ami Serge Bouchard. Puis, il y a des questions d'amitié là-dedans. Mais souvent, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit de la part de gens comme ça qui arrivent, c'est qu'ils viennent prendre les études, s'en retournent dans leur université, vont publier des livres, vont se faire une carrière grâce à ces transmissions culturelles-là, la transmission que les peuples autochtones vont leur avoir faite sans nécessairement redonner. Et c'est là qu'on vient à avoir une certaine lassitude de ça.
OK, on va passer à un autre sujet pour toi. C'était, la Journée internationale de la femme qui est passée il n'y a pas très longtemps. Où en est-on, là, de façon générale, sur la place des femmes dans le milieu autochtone? Il me semble que ça s'améliore, ou bien c'est une idée de blanc que j'ai
là? Ça s'améliore dans une certaine mesure. C'est sûr que ça s'améliore dans une certaine mesure, mais si on regarde au Québec et au Canada, dans les conseils de bande, il y a une majorité d'hommes. J'espère que ce mouvement-là des femmes, parce que les femmes sont très importantes, comme je voyais une intervenante, Kim Obom-Sawin, dernièrement, justement à la Journée de la femme à la télévision dernièrement, qui a expliqué que le mot féministe n'existait pas avant, où on n'avait pas besoin de ce mot-là, parce que la place de la femme était sacrée. Le corps de la femme était sacré. Comment elle décidait de l'utiliser, comment elle voulait partager son intimité, c'était sacré. Donc, les concepts, justement, de féminisme, de se réapproprier cette culture-là, c'est très, très important du fait que le colonialisme a détruit ça. Les peuples non autochtones qui sont arrivés ici étaient subjugués par la place que les femmes avaient dans les sociétés autochtones. Puis c'est une des premières choses qu'ont voulu détruire, justement, le pouvoir des femmes. Par le biais de la loi sur les Indiens, par le biais de toutes sortes de mesures qui ont fait que les femmes perdaient leur statut, perdaient leur identité s'ils se mariaient à l'extérieur. Donc, on voit que cette place-là que la femme avait est en train de revenir. Mais c'est pas facile, il y a encore des tensions.
On a souligné cette semaine la tristesse de ces plus de 10 000 Québécois qui sont décédés à cause de la COVID. La situation de la COVID, de transmission de la COVID, de la vaccination chez les Autochtones?
Oui, ça se déroule rondement. Moi, qu'est-ce que je vois de la part dans mes réseaux? Qu'est-ce que j'entends? Les discussions que j'ai, c'est que y a une forte participation pour la vaccination. Il y a beaucoup de gens chez les Cris qui se sont fait vacciner dans les communautés algonquines, chez Kaodanak, la vaccination va rondement. Et il a fallu que beaucoup de ces communautés-là adoptent des mesures particulières. Je pense seulement aux Cris, pendant le temps de la COVID, un de leurs gros défis, c'était de faire tester les gens. Il y avait tellement de défis à envoyer des avions à Montréal pour amener les tests et tout ça qu'ils se sont développés même un propre laboratoire dans le Nord.
Quand on parle, revenir un petit peu sur les femmes, il n'y a pas une importance très forte du matriarcat chez les Autochtones?
Oui, ben, ça dépend encore des sociétés. Faut pas nous voir comme un bloc monolithique. Les sociétés matriarcales, iroquoiennes, oui, la place de la femme est très importante dans les nouvelles décisions, mais dans les sociétés patriarcales, la place de la femme était quand même respectée et sacrée. Donc, peu importe les sociétés, la place de la femme est importante.
Alexis Wawanoloat, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Alexis, Robert Blondin ici, avec Louis Caron, la tête de cette émission, Claire Guérin à la recherche, Maurice Bolduc à la régie. Oui, bonjour, à la semaine prochaine.